Une petite dernière pour finir en beauté. Savez-vous c'est qui l'aumônier du café? Le père collateur? Merci beaucoup, vous avez été un public en or ce soir. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas regardé Ding et Dong, le film? Revisionnement, c'est un podcast dans lequel, en 30 minutes ou moins, j'essaie de vous convaincre de regarder une nouvelle fois un film qui est plus ou moins bien perçu dans la culture populaire. Tous mes arguments sont prêts et j'ai bien hâte de voir si je vais réussir mon coup. Salut tout le monde et bienvenue à cette grande première de Revisionnement. Pour commencer les choses en beauté, j'ai envie de rester local en allant revisiter un long métrage de notre cinéma québécois qui a atteint le statut de film culte pour beaucoup de spectateurs, mais qui est aussi perçu comme un film à oublier pour bien des gens. Alors ce soir, j'ai envie de me donner la mission de réconcilier ces deux points de vue-là en vous donnant un tas de raisons de revisionner le seul et très unique Ding et Dong le film. Et mes chers auditeurs et auditrices, dites-vous bien que si j'ai jadis réussi à convaincre nul autre que Madame Denise Bombardier de louer ce film-là à l'époque où je travaillais dans un club vidéo du plateau Mont-Royal, rien ne pourra m'empêcher d'user de mon incomparable pouvoir de persuasion pour faire la même chose avec vous. Si les dernières années sont chargées de faire de Ding et Dong le film un long métrage culte pour beaucoup d'amateurs de comédie, eh bien la situation était totalement différente à sa sortie en salle le 5 septembre 1990. Pourtant, pendant les années 80, ce duo comique formé par Serge Thériault et Claude Meunier était totalement au sommet de sa popularité sur scène et à la télévision, grâce à des tournées de plus de 200 spectacles par année et l'animation des soirées d'humour les lundis des ha-ha. Faut pas oublier non plus la méga popularité des célèbres pubs télé de Pepsi dans lesquelles Claude Meunier joue un personnage différent à chaque fois. Pour les trentenaires et les gens plus âgés qui m'écoutent en ce moment, rappelez-vous à quel point la sortie de chacune de ces pubs de Pepsi-là était considérée comme un événement télévisuel en soi. Bref, Meunier et Serge Thériault étaient tellement bien installés dans la culture populaire et dans la conscience collective des Québécois que le méga succès d'un long métrage mettant en vedette leur personnage de Ding et Dong était garanti à coup sûr. Mais vous savez quoi? Bizarrement, le film est passé complètement inaperçu auprès du public. Pourtant, les distributeurs du film s'étaient assurés de choisir une date de sortie la plus éloignée possible de celle des gros blockbusters américains de cette année-là. Ils se sont dit qu'il n'y aurait aucun danger de perdre des profits au guichet en sortant le film de Ding et Dong au même moment que des petits films américains qui seraient selon eux pas du tout populaires comme Goodfellas de Martin Scorsese et Pump Up the Volume avec Christian Slater. Non mais qui c'est qui irait voir ça au lieu d'un film avec deux gars qui portent des vestons en peau de vache pendant une heure et demie, hein? Avec le recul, la réponse à cette question-là est tout le monde. Mais je peux pas m'empêcher de me questionner sur ce qui a démotivé les gens à se déplacer en grand nombre dans les cinémas pour aller voir Ding et Dong le film. Il y a pourtant eu une campagne de publicité importante à la télé, à la radio et dans les journaux. Écoutez, j'ai envie de faire ma petite enquête là-dessus tout de suite, juste pour le fun. On pourrait commencer par écouter une des bandes-annonces du film qui passait dans les cinémas et à la télé en 1990. Me semble qu'il n'y a pas meilleur outil de marketing qu'un bon vieux preview monté avec soin pour montrer un aperçu des meilleurs éléments d'un film dans le but de donner le goût au public d'aller le voir. Je suis certain que ceux qui ont fait la bande-annonce pour Ding et Dong le film avaient exactement la même intention. Donc écoutons ensemble le fruit du travail méticuleux qu'a accompli l'équipe de promotion.
Maxfilm, en collaboration avec cet écran, présente Ding et Dong, le film! King, vous avez deux billets pour le film!
Oh, merci, hein, merci!
Ok, vous nous m'essayez plus tard.
Ding et Dong, le film! Un film à voir?
Tabarnak, c'est quoi ça? C'est vraiment cave. Bon, eh ben, je pense qu'on a un bon début de réponse sur ce qui rendait pas très sexy l'idée d'aller au cinéma pour voir les frasques de Ding et Dong au grand écran. Heureusement, on peut maintenant le faire en gang ou en toute intimité dans le confort de notre chez-soi grâce aux versions VHS, DVD et en vidéo sur demande pour découvrir ou revoir tous les éléments vraiment le fun que les gens ont manqué en 1990 et dont je vais vous parler tout de suite.
Non mais, c'est vrai, mesdames et messieurs, on a beaucoup de préjugés malencontreusement contre l'acupuncture. Mais moi, j'ai un beau-frère qui a perdu 60 livres grâce à l'acupuncture.
Hein? Ah oui?
Ah oui, il a mis des aiguilles dans son sac de chips, ça lui a guéri 18.
La première des choses est que le scénario du film a été écrit par Claude Meunier lui-même, lui qui était déjà un vrai pro de l'écriture scénique et littéraire à cette époque-là. Donc, aucun danger que d'autres scénaristes qui comprennent pas le style unique de Ding et Dong viennent dénaturer les personnages. Dès les premières minutes du film, on s'aperçoit très rapidement que toutes les marques de commerce du duo sont bien présentes à l'écran. comme les blagues de jeux de mots, les gags visuels et les situations ordinaires qui deviennent complètement absurdes dès que Ding et Dong mettent les pieds dans un lieu. En plus, le scénario de Meunier réussit à développer nos deux comiques en leur donnant des aspirations, des conflits, des sous-intrigues amoureuses et en nous les montrant se dépêtrer de leurs péripéties grâce à leur logique bizarrement unique. On a même droit à quelques moments de fanservice, nous donnant des réponses à quelques mystères sur ces deux hurluberlus-là. Par exemple, on découvre finalement l'origine du fameux motif de peau de vache sur les vestons qu'ils portent depuis leur début sur scène. Je dois juste vous faire un gros avertissement pour éviter que vous décidiez de changer de film quelques minutes après avoir commencé. C'est vrai que les 20 premières minutes du film peuvent paraître comme un collage de sketchs qui n'a pas vraiment rapport l'un avec l'autre. Mais je vous rassure, la narration et tous ses fils conducteurs prend vraiment son envol lors de la scène où Ding et Dong arrivent au chevet d'un riche homme mourant qui leur lègue subitement sa fortune. Dès ce moment-là, le scénario entre dans le moule sécurisant d'un film conventionnel et tout le meilleur du film fait son entrée dans les scènes subséquentes. Bref, ne désespérez pas trop vite parce que l'attente en vaut vraiment la peine.
Hey, moi, je pensais jamais finir mes jours en Floride.
Ben, moi, je pensais pas y aller en taxi, les gars.
Non, mais 17$, on devrait être bon pour un bout, hein?
Parmi cet assemblage de sketchs qui vont vous sembler hétéroclites au premier coup d'œil, il y a cette séquence absolument mémorable du film qui vaut à elle seule le prix d'entrée. Ceux qui ont déjà vu le film savent exactement de laquelle je parle. Oh oui, vous lisez bien dans mes pensées. Je parle de celle où Ding et Dong se font engager comme cascadeurs sur le tournage d'une scène de poursuite automobile d'un film d'action. Donc, au volant d'un puissant muscle car, ils doivent exécuter quelques cascades minutieusement planifiées par le réalisateur. Mais dès que les caméras se mettent en marche, Ding et Dong engagent sans s'en apercevoir leur véhicule dans la direction opposée du plateau de tournage. Pendant les minutes suivantes, ils exécutent toutes les dangereuses cascades demandées, mais dans un quartier de la ville qui fait pas du tout partie du tournage. Ils y foutent un bordel complètement fou et complètement hilarant. Wow, quelle séquence d'anthologie, mes amis. Depuis la première fois où j'ai vu ce film-là, quand j'avais 5-6 ans, j'en ai toujours gardé un bon souvenir. Principalement parce que j'ai jamais vu ma mère rire autant à gorge déployée que quand elle regarde ce moment-là du film. En plus, ça a immortalisé entre elle et moi la réplique du film « Boom! Poto! » qu'on finit toujours par se dire quand on est en voiture ensemble au moment où on voit une autre auto faire une manœuvre risquée sur la route.
« Ok, ça c'est la police qui va te tirer la gun. Après, boum! »
Ultimement, je trouve que l'histoire du film tient bien la route. Ça, c'est un gros défi que bien d'autres films qui ont tenté d'implanter des personnages de sketch humoristiques dans la structure d'un long métrage n'ont pas aussi bien réussi. On a juste à penser à la majorité des films des années 90 construits autour des personnages issus de sketchs de Saturday Night Live, par exemple. Mais par respect pour ces projets-là, je vais taire leur nom en ne nommant absolument pas Conan Superstar et The Ladies Man. Non, il est hors de question que je les nomme.
Pis là, c'est quoi, là? Là, c'est supposé être boum poteau, mais pour moi, c'est boum majolette.
Oui, ça a l'air à ça.
Ce que j'aime bien aussi, c'est que le format du long métrage permet la possibilité de donner quelques scènes individuelles à Ding et Dong où ils peuvent prendre un break bien mérité l'un de l'autre tout en les faisant interagir avec d'autres personnages pour faire progresser l'histoire. C'est aussi le moyen parfait qui permet à Claude Meunier et Serge Thériault de briller individuellement en faisant rire les spectateurs à leur façon. Par exemple, le Dong de Meunier donne toujours dans les jeux de mots farfelus, tandis que le Ding de Thériault divertit par ses tournures de phrases absurdes et par une étonnante dimension de gags physiques de style slapstick. Ah oui, un petit fait amusant, saviez-vous que Claude Meunier a aussi pu compter sur les conseils du réalisateur Denis Arcand pour peaufiner son scénario? Et tant qu'à avoir Arcand à ses côtés, Meunier en a aussi profité pour lui demander s'il était intéressé à réaliser Ding et Dong le film. Denis a poliment refusé parce qu'il était déjà en train de préparer un autre projet à cette époque-là. Non, mais vous imaginez-vous un film de Ding et Dong réalisé par Denis Arcand? Que de possibilités, mes amis. Personnellement, j'aime bien m'imaginer une scène qui se passait dans une chambre à coucher où Rémi Girard et Dominique Michel essayent de discuter d'histoire antique tout en étant couchés dans le même lit que Ding et Dong.
D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, impudence? Toi, tu le sais-tu?
Oui, ben moi, d'après moi, c'est comme une sorte d'abréviation longue pour dire imprudence. Comme par exemple, quand quelqu'un tombe en bas du troisième étage, tu dis « Attention, c'est imprudent! » Puis ça va plus vite pour la bêtise pendant qu'il tombe.
Je m'en voudrais de pas parler des personnages secondaires avec lesquels nos deux comiques interagissent. Particulièrement deux d'entre eux joués par Raymond Bouchard et Sophie Fauché. Parce que, comme dans tout bon film qui se respecte, il doit aussi y avoir des personnages qui entrent graduellement dans la bulle d'amitié inconditionnelle des protagonistes pour créer une animosité qui va ultimement transformer les deux amis en ennemis. C'est arrivé à plusieurs duos célèbres tels Batman et Robin, Patrick Roy et Mario Tremblay, Et Ding et Dong n'y font pas exception. Après que nos deux comiques aient hérité d'une importante fortune qu'ils utilisent pour acheter un théâtre dans lequel ils seront les acteurs principaux de toutes les pièces, Dong fait la rencontre de Gaétan, ou comme il dirait si bien « Gaétan, Gaétan », joué par l'unique Raymond Bouchard. Gaétan offre très rapidement à Dong de devenir son agent, en lui faisant miroiter l'existence luxueuse qu'il peut lui offrir en lui dénichant des opportunités de carrière au cinéma et en publicité télé. Et Gaétan cesse pas d'encourager Dong à servir beaucoup plus de ses talents pour la comédie en mettant plus de pittori dans ses performances théâtrales. Et de manière insidieuse, il lui met dans la tête que Ding devient un boulet qui l'empêche d'atteindre son plein potentiel.
Ce qui est bon, toi, quand tu joues le Cid, là, c'est les petits jokes que tu mets, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est bon que tu places une couple de jokes. Parce que ton chum, là, ton chum, sérieux, lui? Je veux pas dire qu'il est plate, là.
Mais non, non, je comprends ce qu'il dit. Il est peut-être un petit peu moins...
Exactement, il est un petit peu moins.
Il faut vraiment que je prenne un instant pour rendre hommage à Raymond Bouchard, qui incarne si bien un type d'antagoniste qui est toujours, sympathiquement haïssable. C'était vraiment le genre de personnage pour lequel il était si bien utilisé dans les années 90. C'est le cas dans Ding et Dong, mais aussi dans bien d'autres films comme L'Assassin joue du trombone et La Florida. Mais il faut aussi souligner l'incroyable puissance à l'écran de sa légendaire moustache. Oh, cette moustache-là, là! Oh, Marone! Vous allez voir, là, elle est dans la même ligue que celle de Tom Selleck, de Burt Reynolds et de Manon Massé. Quant à lui, Ding est soudainement approché par la belle et envoûtante Sarah Bédard, qu'incarne Sophie Fauché. Elle, je la décrirais comme la Yoko Ono qui vient aussi semer la bisbille dans la profonde complicité des deux comiques. C'est une aspirante actrice un peu hautaine qui cherche à percer dans le métier et elle espère se faire remarquer en profitant de la notoriété de Ding. Dès le début de leur relation, elle insiste pour le convaincre qu'il est un grand acteur de talent et qu'il atteindra jamais les plus hauts sommets de son art s'il continue à se faire entraîner vers le bas en restant avec Dong. Forcément, cette idée-là fait son chemin dans la tête de Ding, qui finit par en être convaincu.
Vous savez, moi le théâtre, c'est ma vie. Comme je dis à mes amis, moi, les planches, j'en mange.
Moi aussi, mais je les passe au blender avant.
Je peux pas me retenir plus longtemps, là. Il faut que j'en parle tout de suite. Là. Mais quel coup de génie d'avoir choisi la formidable Sophie Fauché pour jouer ce rôle-là. Elle est faite sur mesure pour incarner Sarah. Sa beauté naturelle, sa capacité à jouer des femmes qui ont des personnalités fortes, et bien sûr sa pointe d'accent français, qui est selon moi sa plus belle marque de commerce, rendent de facto ce personnage éminemment meilleur que ce qu'il aurait dû être. Chapeau à Madame Fauché pour ça, et je lui offrirai mes hommages en mangeant un bagel avec du Philadelphia dessus.
Monsieur Dong.
Ah, mes roses! Les roses! Bon, qui c'est ça encore? Nous sommes tous dans tes culottes. Fernandelle!
Il est pas mort, lui?
Ça a pas l'air.
Pour finir sur les personnages secondaires, vous allez rapidement remarquer durant tout le film les brèves apparitions dans des tout petits rôles de tout un tas d'acteurs et d'actrices qui en étaient à leur début en 1990 et qui sont maintenant devenus des grosses pointures de notre cinéma et de notre télé. Gardez l'œil ouvert pour les apparitions de Marc Labrèche, Anne Dorval, Luc Picard et Yves Pépeltier et un paquet d'autres. Le film est tellement bourré de personnalités québécoises que vous pouvez même vous en faire un jeu si vous regardez le film à plusieurs. Prenez-vous un papier puis un crayon et essayez de noter le plus grand nombre de noms de tous ces acteurs, actrices et personnalités québécoises connues de cette époque jusqu'à nos jours. Et à la fin du film, celui qui en a noté le plus, ben, se mérite une récompense. Je vous mets au défi de battre les 23 noms que j'ai notés pendant mon dernier visionnement avec des amis.
Lorsqu'on fonde une nouvelle compagnie théâtrale, je pense qu'il est très important de la situer très très bien sur l'échiquier du théâtre d'ici. Qu'est-ce que c'est l'orientation exacte
du théâtre? L'orientation du théâtre est très claire et nette. Ça fait, c'est une orientation nord-ouest. C'est-à-dire que nous sommes sur des Maisonneuve-Ouest. En fait, c'est 1240 de Maisonneuve. Juste de billets avec leur fils. On voit la patate dans la vitrine sur de Maisonneuve.
Après vous avoir réchauffé pendant plus d'une heure à coups de leurs très bons gags auditifs et visuels, Ding et Dong sont enfin prêts à vous offrir le clou de leur spectacle cinématographique. Ils vous préparent une finale que vous n'oublierez jamais et qui est selon moi le meilleur troisième acte de tous les temps dans le registre des comédies québécoises. Je parle de la célèbre séquence de la grande première de la pièce de théâtre Le Cid. Elle est du pur génie comique. C'est la culmination de chaque élément mis en place par le film et tout est prêt pour que les choses partent catastrophiquement en couille dès le lever du rideau. Ding et Dong y interprètent au moins la moitié des rôles, ils savent pas leur texte et ils sont au sommet de l'animosité qui s'est construite entre eux au point où le couvercle du chaudron est sur le point de sauter. On ajoute à ça des problèmes techniques, de costumes et d'accessoires qui viennent créer un Capharnaüm hilarant et tellement mémorable. Chers auditeurs, vous pouvez pas vous imaginer là à quel point je me fais présentement violence pour m'empêcher de vous décrire gag par gag tous les meilleurs moments de cette séquence-là. Mais je peux pas parce que ça vous gâcherait tellement les surprises des nombreux moments de rire authentiques que vous allez avoir. Cette séquence-là là, est une des raisons principales de regarder une nouvelle fois ce film dès que vous le pourrez. Il faut aussi que je souligne le brio de l'équipe responsable du montage de ce moment important du film. Le timing parfait du montage, de l'image et du son est vraiment au cœur du succès de tous les gags et du plaisir qu'on a à les regarder et à en rire immédiatement. Un gros bravo à tous ceux qui en sont responsables.
Oui, là.
Ouais.
Oui, ce qui te fait chier, là, c'est que moi, là, je suis rendu au niveau de Nicholson puis de Adjavi.
Adjaki?
Adjavi, l'actrice, là. Mon enfant, si tu la connais pas.
Adjani, tu veux dire.
Ouais, j'avais pas d'impressionner avec tes grands noms, hein.
Ben, je peux te dire le tien, si tu veux.
Là, je m'aperçois que je vous parle déjà depuis un bon moment. Donc, j'imagine que certains de mes arguments sont déjà rendus bien loin dans votre mémoire. Alors, pour rapidement vous remémorer pourquoi vous devez revisionner ce film, je vous ai préparé une brève synthèse. Je vous conseille un revisionnement de Ding et Dong le film pour découvrir ou redécouvrir un des duos d'humoristes qui a sans aucun doute marqué l'histoire de l'humour au Québec. Pour la séquence de la cascade de voitures complètement survoltée et hilarante. Bravo au réalisateur et à son équipe pour la solide mise en scène de ce moment fort du film qui vous fera aussi dire « Boum, poteau ». Pour la séquence inoubliable de la grande première de la pièce de théâtre, où tous les gags qu'on y voit sont soigneusement réglés au quart de tour pour nous faire rire aux éclats. Je vous garantis que vous vous surprendrez à reculer le film quelques fois pour en revoir les meilleurs moments. Parce que ce film est aussi une véritable capsule temporelle pleine de nostalgie du début des années 90, dans laquelle on se sent comme des VIP en voyant apparaître à l'écran, pour une première fois pour certains, beaucoup d'acteurs et d'actrices maintenant bien établis dans la culture populaire québécoise. Je vous rappelle aussi de pas oublier de faire le petit jeu en gang que je vous ai suggéré il y a quelques minutes. Vous allez voir, c'est bien le fun. Ça nous offre aussi le réel plaisir de revoir à l'écran des acteurs qui nous ont malheureusement quittés lors des dernières années. Ça fait plaisir de les revoir s'amuser dans leur rôle du temps où ils étaient encore en pleine forme. Et la dernière raison, elle est vraiment cool. C'est que le film nous offre un regard dans l'avenir pendant toute la dernière scène qui montre Ding et Dong en plein milieu d'un sketch qui nous fait rapidement réaliser là qu'on est en train de regarder une version prototype de ce qui deviendra quelques années plus tard le sitcom La Petite Vie. On les voit jouer les personnages de Timmy et Jacqueline. Les deux sont couchés dans un lit vertical comme ils l'ont souvent fait dans plein d'épisodes. Et Jacqueline reçoit même un appel de sa fille Thérèse qui lui téléphone pour lui demander une de ses recettes comme elle l'a souvent fait aussi dans cette série-là. Sans que les spectateurs de 1990 le sachent, Claude Meunier et Serge Thériault nous montraient secrètement leur plan de tranquillement laisser les personnages de Ding et Dong derrière eux pour bientôt sauter à pieds joints dans les costumes de Papa et Maman et lancer la prochaine étape de leur carrière dans ce qui deviendra une des séries les plus inoubliables de l'histoire de la télé québécoise.
J'imagine que vous avez aussi des projets internationaux.
Ben, il y a évidemment, oui, il y a Fellini qui m'a appelé pour qu'on monte quelque chose ensemble, mais on ne sait pas quoi monter encore. Peut-être qu'on va juste monter un escalier, finalement.
En conclusion, si j'ai bien réussi ma mission de vous donner envie de revisionner Ding et Dong le film ou le regarder pour la toute première fois, ce serait naturel que je termine mon laïus en vous dirigeant vers les endroits où vous pouvez mettre la main dessus. Je vous conseille d'idéalement vous diriger vers Illico et iTunes pour en faire la location au prix très modique de 2,99$. Ça va vous permettre de regarder la superbe remasterisation HD faite par les artisans de la plateforme Elephant dans le but de conserver ce petit trésor du cinéma d'ici dans le meilleur état visuel et sonore possible. Pour ceux qui préfèrent le médium physique, un DVD lancé par Crystal Film est disponible sur le marché depuis une vingtaine d'années. Une recherche sur Internet devrait vous montrer les commerces qui l'ont en stock. Ça aussi, ça devrait pas vous coûter trop cher pour l'acquérir, puisque le contenu du film est manufacturé de manière un peu cheapos, malheureusement. Parlant de ça, je vous annonce que je serai devant les bureaux du ministère de la Culture demain toute la journée pour manifester pacifiquement pour qu'une sortie en format Blu-ray se produise d'ici 2025. Hashtag on veut Ding et Dong en Blu-ray. Et bien voilà, c'est maintenant que se termine cet épisode inaugural de revisionnement. J'espère que le concept et le contenu vous ont plu. Mais puisque vous êtes rendu aussi loin dans l'écoute de cet épisode, j'ai envie de faire de vous des VIP en vous révélant tout de suite le sujet du prochain épisode qui sortira bientôt. Et juste pour le fun, je vous donne un petit indice sonore pour voir si vous êtes capable de deviner ce que c'est. Écoutez ça et on s'en reparle tout de suite après.
C'est une reine.
Comment tu sais ça?
Elle va pondre. vous mourrez.
Et puis, avez-vous deviné? Lors du prochain épisode, j'aurai le plaisir de tenter de vous donner envie de revisionner nul autre que le fameux et si controversé Alien Resurrection. Le quatrième opus de cette série de science-fiction où Sigourney Weaver et des xénomorphes tentent sans succès de régler leur conflit de personnalité. Ça me fera plaisir de vous donner toutes les nombreuses raisons pour lesquelles ce film mérite d'y jeter un nouveau coup d'œil. En attendant, ici Sébastien Bourget et je vous souhaite un très bon revisionnement.